Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Préside. Postillon espagnol sur la côte méditerranéenne marocaine.
Le terme de préside est attesté dans la langue française depuis le courant du XVIe siècle après J.C. et emprunté au castillan presidio. Dans cette langue, ce terme signifie bagne, dérivé du latin presidium qui signifie protection, défense, et désigne une garnison ou un poste militaire, il est par la suite utilisé dans le sens de lieu fortifié. Par extension, le français désigne par ce terme un poste fortifié établi par les Espagnols sur le pourtour méditerranéen. L'histoire de l'expansion des royaumes ibériques, Espagne et Portugal actuels, dans le nord du continent africain à partir du XVe siècle, retient l'expression « plazas de soberania », lieu de souveraineté, pour nommer les quelques lieux d'implantation militaire dans ces régions. Pour la protivophilie, ces petits postes épars sont, par définition, des postillons. Ces postillons espagnols se répartissent sur la côte méditerranéenne de l'actuel Maroc et sont constitués d'ouest en est de l'île Persie, de Ceuta, du rocher de Vélez de la Gomera, des îles Alhucemas, de l'île Alboran, de Melilla et des îles Zafarine. De par leur histoire et leur géographie qui les place à la rencontre des mondes ibériques et amaziro-arabes, tous ces lieux ont aussi des noms puisants dans les pratiques linguistiques du Maghreb. Ainsi, l'île Persie est appelée Leila en arabe. Septa est la version maghrébine de Ceuta. Le rocher de Badiz est Vélez de la Gomera. Les îles Alhucemas sont la version castillane de la ville côtière proche d'Al-Hosema. Alboran est nommé Al-Buran en arabe et surnommé le nombril de la mer. Le nom de Melilla reste proche des sonorités amaziro-arabes et les îles Zafarine tiennent leur nom du terme amazir Ishfaron qui signifie littoraux.
Largement urbanisés par les hominines, les territoires de Ceuta, 18,5 km² et Melilla, 13,41 km² sont situés sur la partie continentale de la côte, alors que les autres présides sont des îles. Sur certaines, des hominines ont construit des bâtiments durables afin de pouvoir y vivre de manière permanente ou temporaire. D'une superficie de 21 stades de foot, Persil est un îlot de pierre accidenté à 200 mètres de la côte qui trône à 70 mètres d'altitude. Inhabité, il est facilement accessible à marée basse. Le rocher de Vélez de la Gomera, forme une presqu'île de pierre atteignant 87 mètres d'altitude et que la marée haute transforme parfois en île en recouvrant un banc de sable. Il fait un peu plus de 2,5 stades de foot. Des bâtiments recouvrent la presque totalité du rocher. Les îles Alhucemas sont un mini-archipel constitué de trois îles de taille proche, l'île de terre, l'île de mer et le rocher Alhucemas. Le tout pour une superficie d'un peu moins de 6,5 stades de foot. Les deux premières sont à environ 50 mètres de la côte et hautes respectivement de 11 et 4 mètres. Le rocher est à 800 mètres et culmine à 27 mètres. Il est le seul à abriter des bâtiments. Les îles Zafarin sont un archipel d'environ 73 stades de foot constitué des îles du Congrès, Isabelle II et du Roi. L'île du Congrès, à un peu plus de 3 km des côtes, est la plus proche des trois ainsi que la plus haute, culminant à 137 mètres, et la plus grande, avec 35 stades de foot. Un kilomètre plus loin, celle d'Isabelle II, presque deux fois plus petite, n'est haute que de 35 mètres. Elle est la seule de l'archipel à avoir des bâtiments sur son sol. À un peu moins de 200 mètres au large, les 16 stades de foot de l'île du Roi culminent à 9 mètres d'altitude. À plus de 50 km de la côte maghrébine et environ 85 de la côte ibérique, l'île Alboran est la plus isolée de toutes les présides. Seul point émergent d'une chaîne montagneuse sous-marine, elle comprend l'île Alboran, à proprement dit, et le minuscule îlot de la Nube, qui ne sont séparés que par un petit canal de 100 mètres de long et de 2 mètres de profondeur. Le point le plus haut d'Alboran est à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'une superficie de 10 stades de foot, seuls deux bâtiments y sont construits par des hominines. L'île donne son nom à cette partie occidentale de la mer Méditerranée qui débouche via le détroit de Gibraltar sur l'Atlantique, la mer d'Alboran. Ce personnage est dérivé d'un mot turc signifiant « tempête », synonyme en quelque sorte d'un sérieux postillonnage.
Dans le commerce maritime ou l'exploration géographique, la mer d'Alboran revêt un caractère particulier. Elle est la partie la plus étroite de la mer méditerranéenne, là où les continents d'Afrique et d'Europe sont les plus proches. Elle est juste au point de rencontre des deux plaques tectoniques. De plus, elle est l'unique passage vers l'océan Atlantique à travers l'étroit goulet de 14,5 km qu'est le détroit de Gibraltar. Les différents pouvoirs politico-religieux qui se succèdent dans la région au cours des 20 derniers siècles érigent des villes, des ports et des fortifications le long des côtes ibériques et maghrébines de la mer d'Alboran. Entre les 7e et 15e siècles, des royaumes maghrébins mahométiens contrôlent en grande partie les deux rives continentales de cette mer. L'invasion d'armées de chrétiens venus du nord entame progressivement les royaumes mahométiens sur la péninsule ibérique. Elles parviennent à renverser les pouvoirs en place et contraignent une partie de la population à fuir ou d'autres à se convertir. Les royaumes maghrébins quittent la péninsule et se replient sur le continent africain. La prise de contrôle des territoires par les royaumes d'Espagne et du Portugal qui se mettent en place se double de tentatives d'étendre leur pouvoir sur les endroits stratégiques qui protégeraient leurs intérêts commerciaux. À partir du début du XVe siècle, ces deux royaumes prennent place entre l'actuel Maroc et la Tunisie. Dans les marges de l'Empire ottoman, le Maghreb est une zone de friction entre cet empire et d'une part les pouvoirs politiques locaux et d'autre part les royaumes ibériques. Le commerce légal ou illégal, étatique ou de pirates, de denrées, de produits et d'esclaves est florissant autour de la mer d'Alboran et suscite de nombreuses convoitises. Puissance régionale maritime grandissante, le royaume d'Espagne parvient à s'installer dans plusieurs ports et fortifications tout au long du XVIe siècle. Outre les présides, les villes de Oran, Bougie, les rochers d'Alger et Tunis passent sous contrôle espagnol. Le royaume ibérique sécurise ainsi ses portes d'accès à l'économie africaine et ottomane et neutralise partiellement la concurrence qu'est la piraterie. Le but n'est pas une colonisation. Seules des garnisons militaires sont maintenues sur place, dans des casernes et des places fortes, alors que l'arrière-pays n'est pas du tout investi par les armées ibériques. Certaines tentatives se soldent par un échec, et les Ottomans parviennent à maintenir leur mainmise sur les villes et les ports convoités. De multiples batailles navales entre les empires ottomans et espagnols, entre ce dernier et les pirates de la mer d'Alboran, jalonnent l'histoire de ces quelques bouts de terre. Avec la découverte des Amériques et le commerce transatlantique entre l'Afrique et ce continent qui prend de l'ampleur, ainsi que les explorations commerciales le long des côtes africaines, la maîtrise de cette région acquiert une nouvelle dimension. Pour tous les pouvoirs politiques du pourtour méditerranéen, elle est le seul accès maritime à la façade océanique qui mène à tous les autres continents. Les quelques implantations espagnoles le long des côtes atlantiques maghrébines se font plus territoriales, telles le nord du Maroc, le Sahara espagnol ou les Canaries.
Conditions de vie des quelques centaines de militaires cantonnés dans les présides autres que Ceuta et Melilla sont très dures, du fait de leur situation isolée. Les rochers de Vélez de la Gomera et d'Alger ne disposent par exemple pas de source d'eau potable et celle-ci doit être importée régulièrement à partir de la péninsule ibérique. En plus des casernes, des églises sont construites sur quelques-uns ainsi que des phares. De petits bagnes sont installés dans plusieurs présides. Mais le royaume d'Espagne ne parvient pas à se maintenir face à l'Empire ottoman, qui récupère une partie des villes et consolide sa présence au Maghreb vers la fin du XVIIIe siècle. Les présides actuels sont ce qu'il reste de la présence espagnole sur la côte maghrébine. La situation actuelle date de 1956, lorsque le Maroc est reconnu État indépendant par l'Espagne, fixant ainsi les nouvelles frontières entre les deux pays. Le Maroc conteste ce découpage et réclame depuis sa pleine souveraineté sur les présides, hormis Alboran resté espagnol. Le Maroc défend que les présides sont des vestiges coloniaux dont les territoires doivent lui être rétrocédés, alors que l'Espagne plaide que, contrairement au reste du Maghreb dont elle s'est retirée, la souveraineté sur les présides sont un héritage légal et historique qui ne procède aucunement du colonialisme. Au même titre que Gibraltar fait qu'il existe une frontière commune entre le royaume britannique et celui d'Espagne, les présides tracent une frontière terrestre entre l'Espagne et le Maroc, une frontière politique entre les continents européens et africains. La dernière confrontation militaire date de 2002, lorsque des forces spéciales de l'armée espagnole sont envoyées sur l'île aux Persies pour en chasser 6 militaires marocains. À l'extrême sud de la péninsule ibérique, en face de Ceuta, le rocher de Gibraltar est contrôlé par le Royaume-Uni depuis 1704. L'Espagne n'a de cesse, jusqu'à aujourd'hui, de revendiquer sa souveraineté sur ce territoire de 6,8 km² et peuplé de plus de 30 000 hominines. Les référendums d'autodétermination organisés à Gibraltar auprès de la population ont entériné la présence et l'autorité britannique.
Les présides mineurs sont de minuscules territoires iliens répartis le long de la côte méditerranéenne de l'actuel Maroc jusqu'à la frontière algérienne. Ils sont les reliquats de la politique maritime du royaume espagnol, qui vise à sécuriser son commerce maritime sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, à le préserver des attaques des marines ottomanes ou de la piraterie à partir du XVe siècle. Aujourd'hui, italiennes ou grecques, des îles ou des villes furent fortifiées par les Espagnols en Méditerranée orientale afin de préserver leurs intérêts marchands. Mais la perte de puissance politique du royaume et des accords ont depuis mis à mal leur influence dans cette région. L'Espagne n'y a plus de territoire sous sa souveraineté.
Îlot Percy.
Après la prise de Ceuta par les armées du royaume portugais en 1415, l'îlot est officiellement incorporé à la nouvelle place forte portugaise. Une première tentative d'y construire une fortification est un échec et tous les projets qui suivirent restèrent lettres mortes. Le Portugal cède sa souveraineté sur Ceuta et ses dépendances au royaume d'Espagne dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les Britanniques revendiquent l'îlot et l'occupent pendant quelques années au début du XIXe siècle, mais finalement les Espagnols installent un groupe de 4 militaires et un chien chargé de surveiller l'indépendance de l'îlot et le préserver des aspirations marocaines. Dans la décennie 1960, des accords sont conclus pour que l'îlot Persil soit déclaré « terra nullius » par les deux pays et qu'aucun des deux ne maintienne une quelconque présence dominine et de drapeau. Le nouveau statut accordé par l'Espagne à Ceuta en 1995 relance la polémique. L'îlot est incorporé aux frontières de Ceuta. Les protestations marocaines ne suffisent pas à faire reculer les revendications espagnoles. En 2002, l'Espagne envoie 6 hélicoptères et une trentaine de forces spéciales accompagnées d'un navire de guerre pour déloger 6 militaires marocains chargés de la lutte antidrogue. Opération Romeo Sierra est le nom de code de cette action militaire. Aucune résistance de la part des assiégés qui quittent immédiatement l'îlot. À la demande des concernés, les États-Unis d'Amérique font médiateur entre l'Espagne et le Maroc pour qu'un accord soit trouvé. Finalement, il est décidé de prolonger le statu quo existant jusqu'alors.
Rocher Vélez de la Gomera.
Le Rocher et la ville de Badis, dont il est proche, sont occupés à partir de 1508 par des forces espagnoles. Une fortification est érigée sur le promontoire rocheux que forme le rocher Vélez de la Gomera. L'Espagne en est chassée en 1522, puis après des tentatives ratées, reprend le contrôle du rocher en 1564, qui servait depuis plusieurs décennies de repère de pirates. En effet, pendant ces années, le rocher est l'endroit privilégié où les bateaux pirates mouillent et trouvent refuge. Des marchandises pour la ville de Badis se déchargent ici. L'Espagne fait construire des maisons, une caserne, une église et un port. Le lieu est utilisé en bagne par les autorités espagnoles qui envoient ici des récalcitrants. Un phare est construit et opérationnel depuis le début du XXe siècle. Le rocher forme alors un micro-village escarpé, avec ses habitations, ses cafés et ses commerces, qui peut compter plus de 400 hominines, bagnards compris. L'endroit ne dispose pas de source d'eau potable et dépend d'un approvisionnement extérieur. De nos jours, celles que quelques militaires espagnols sont encasernés et relevés en permanence sur le rocher pour maintenir la frontière fermée juste après le banc de sable. En 2012, des militants favorables à la souveraineté marocaine sur le rocher Vélez de la Gomera sont arrêtés, puis relâchés, après avoir voulu y planter des drapeaux marocains.
Île Alucenas.
Les 3 stades et demi de l'île de Terre et les moins de 2 de l'île de Mer sont situés à environ 50 mètres du continent. Comme l'indique leur nom, la première est plus proche de la côte que la seconde. Aucune des deux n'est habitée, ni n'abrite de bâtiment, si ce n'est un minuscule cimetière abandonné sur l'île de Mer. À 800 mètres de la côte, la troisième île de l'archipel est le rocher Alucenas, qui donne son nom à l'archipel. Après une première occupation espagnole au milieu du XVIe siècle, le rocher de 2 stades de foot et pleinement investi en 1673. Des maisons, un fort, une église et un port y sont construits. Et plus tard, un phare. Le cimetière est installé sur le minuscule îlot La Pulpera, qui est relié au rocher par un petit pont. N'ayant aucun accès direct à une source d'eau potable, les hominimes entreprennent la construction d'une citerne souterraine qu'il faut réalimenter régulièrement. Le micro-village comporte quelques commerces et va abriter jusqu'à 300 personnes. Lieu isolé du royaume espagnol, il est utilisé pendant plusieurs siècles pour tenir à l'écart les indésirables, puis se transforme officiellement en bagne dans lequel sont enfermés des prisonniers de droit commun et des déserteurs, puis des prisonniers politiques et autres dissidents. En 2012, un groupe d'une soixantaine d'hominimes cherchant à migrer vers l'Europe parviennent à rejoindre l'île de Terre, la plus accessible de l'archipel, mais la plupart sont arrêtés par les militaires espagnols et expulsés vers le Maroc. En 2020, les 350 hominimes qui vivent sur le rocher Alucenas sont des militaires espagnols chargés de la garde de la frontière et leurs familles, ainsi que quelques fonctionnaires et commerçants.
Île Zaffarine.
Des trois îles de l'archipel, l'île du Congrès est la plus grande et la plus haute. Promontoire rocheux d'un peu plus de 60 stades de foot et situé à un peu plus de 4 km du continent, il culmine à 137 mètres. Sa géographie escarpée ne permet pas un accès facile. L'île est inhabitée, mais abrite un petit cimetière dans sa partie basse. Dans les années 2000, des fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des restes d'occupation par des hominines à l'époque néolithique. D'une superficie d'un peu plus de 22 stades de foot, l'île Isabelle II est la seule à être habitée. Une église, des bâtiments militaires, un débarcadère et un phare y sont construits à partir de 1848, date à laquelle le royaume espagnol s'octroie la souveraineté sur les trois îles de l'archipel. Les installations militaires sont utilisées pour en faire un bagne jusqu'à la moitié du XXe siècle. L'église est depuis abandonnée. Si la population de l'île Isabelle II, bannière compris, a pu approcher les 1000 hominines, elle est aujourd'hui réduite à une petite garnison militaire et de scientifiques venus observer et étudier l'écosystème local. Officiellement, l'archipel est classé zone naturelle protégée, afin d'y préserver sa faune et sa flore. Grande comme 14 stades de foot, l'île du Roi est elle aussi inhabitée, hormis par les quelques hominines enterrées dans le petit cimetière civil. Elle était reliée à l'île Isabelle II par un quai artificiel de 180 mètres de long, mais la construction des hominines n'a pas résisté aux vagues en 1914 et il ne reste aujourd'hui que des vestiges sous-marins.
Île Alboran.
Unique point émergent d'une chaîne montagneuse sous-marine, l'île Alboran culmine à 15 mètres d'altitude dans sa partie la plus élevée. À la rencontre des plaques tectoniques, la région est une zone sismique. Le nombril de la mer est approximativement à mi-distance entre la péninsule ibérique et les côtes maghrébines. Le minuscule îlot de la Nube est à une centaine de mètres d'Alboran, séparé par des eaux peu profondes. L'île tient son nom du corsaire Mustapha Ben Youssouf, qui y établit au XVIe siècle sa base principale pour attaquer les côtes ibériques. Il est surnommé Alborani, la tempête, tant ses raids navals sont redoutés. Les Espagnols prennent pied sur l'île en 1540, bien décidés à enchâsser le corsaire et ses bateaux. Des légendes rapportent que le trésor du corsaire est encore caché sur l'île. Sans visiblement s'y installer, le royaume d'Espagne contrôle maritimement les alentours de l'île et exploitent leurs grandes ressources de pêche. Dans le milieu du XIXe siècle, un phare est construit. Son fonctionnement nécessite dès lors la présence permanente de deux hominines jusqu'à son automatisation dans les années 1960. À l'extrémité de l'île, côté îlot de la Nube, un petit cimetière abrite trois tombes. Deux d'entre elles sont occupées par les restes de la femme et la belle-mère d'un gardien de phare, morte en 1910 et 1920, et la troisième par un aviateur militaire allemand de la Seconde Guerre dite mondiale. À quelques pas de ce cimetière, il reste encore les vestiges d'une ancienne tombe que certains historiens attribuent à Mustapha Ben Youssouf, alias la Tempête. Avec un humour dont on le croyait dépourvu, le général Francisco Franco instaure en 1950 le titre posthume de marquis d'Alboron, qu'il attribue à l'un de ses proches. La présence répétée de pêcheurs soviétiques sur l'île pousse l'Espagne à installer une petite garnison militaire dans les années 1960. Une caserne, un débarcadère et un héliport voient le jour. La situation géographique de l'île Alboron et son caractère relativement plat l'exposent à des contraintes climatiques qui ne permettent pas le développement à terre d'une faune et d'une flore importantes. Mais son milieu aquatique est riche en poissons et autres petits animaux marins. Elle est actuellement déclarée réserve maritime pour préserver les ressources et réserve de pêche pour mieux les exploiter. L'île est un haut lieu de reproduction pour les goélands leucophées, alias les gabions. L'île Alboron est administrativement rattachée à la province d'Almeria, située sur les côtes de la péninsule ibérique, et n'a pas le statut de préside. Elle n'est pas revendiquée par le Maroc.
Contrairement aux présides mineurs, les présides majeurs de Ceuta et Melilla sont bien plus qu'une simple postillonnade. Enclaves continentales, ce sont plutôt des flaques de postillons. Toutes deux sont des zones urbaines anciennes, dotées de ports et de fortifications, et des points d'entrée et de transit de marchandises entre la péninsule ibérique et les côtes maghrébines. Elles furent d'abord de simples ports sécurisés, ayant un intérêt stratégique dans le contrôle maritime et le maintien de routes de commerce. Véritables villes, Ceuta et Melilla se sont construites progressivement pendant des siècles, au fil des différentes dominations politiques qui s'y succèdent. Phéniciens, Romains, Royaumes maghrébins, Empire ottoman et espagnol. Les hominines qui y vivent sont à l'origine ibériques, puis par l'extension des frontières et les migrations des hominines du Maghreb, la population des deux villes se sont étoffées de populations arabo-berbères. Cette main-d'œuvre est la bienvenue et contribue à l'essor économique des enclaves espagnoles. Des luttes menées dans le courant des années 80 ont permis l'obtention de la nationalité espagnole pour de très nombreuses familles, installées depuis des décennies et reconnues citoyennes de Ceuta et Melilla. Des politiques visant à rééquilibrer les différences sociales et lutter contre les ségrégations sont mises en place. La Covencicia est l'art du vivre ensemble citoyen des deux postillons majeurs. La création de partis politiques se réclamant des mahométiens des présides ne contrebalance pas l'exclusion sociale que la plupart vivent au quotidien. La demande de reconnaissance de la Mazire de Melilla en tant que co-langue officielle de l'Espagne n'aboutit pas. Ceuta et Melilla obtiennent en 1995 le statut de ville autonome au sein de l'Espagne, qui mélange prérogatives des régions et compétences citadines locales.
Ceuta.
Ceuta tient son nom de l'appellation grecque des sept collines, puis romaine septa, qui désigne l'implantation urbaine d'hominines dans la péninsule d'Almeria, surplombée d'autant de petites collines. La construction d'un port et de forteresse est l'élément fondateur de Ceuta, située stratégiquement en face de Gibraltar, dans la partie la plus étroite entre la péninsule ibérique et les côtes maghrébines. Elle contrôle le versant sud du détroit de Gibraltar. Après sept siècles sous domination romaine puis autant sous domination maghrébine, le royaume du Portugal s'accapare de Ceuta en 1415. Elle s'y maintient jusqu'en 1580 où la souveraineté est donnée au royaume d'Espagne. Les deux royaumes ibériques officialisent cela en 1668. Malgré les attaques des royaumes maghrébins et britanniques, l'Espagne consolide sa présence autour de Ceuta au XVIIIe et XIXe siècle. Néanmoins, les Britanniques s'emparent en 1704 du rocher de Gibraltar, l'équivalent ibérique de Ceuta, mais qu'ils ne parviennent pas à prendre. Le royaume du Maroc conteste la souveraineté espagnole et de nombreux accrochages opposent les militaires des deux pays. Les tensions aux frontières de Ceuta sont courantes. Prétextant une violation de sa frontière à Ceuta, le royaume espagnol se lance en 1859 dans une guerre contre le Maroc. Après 2 années de guerre, ce dernier perd quelques portions de son territoire. Les frontières de Ceuta sont repoussées hors des alentours de la péninsule pour s'étendre dans tout l'arrière-pays sur le territoire compris entre la mer en suivant les hauteurs de Sierra Boulones jusqu'au ravin de Anguera. Selon le traité de Ouadras signé en avril 1860 entre les belligérants, le nouveau territoire de Ceuta passe à 18,5 km², sa superficie et sa frontière actuelle. Comme tous les territoires espagnols des côtes maghrébines, Ceuta a ses églises, plusieurs même, ses commerces, sa populace et son bagne. Son statut de colonie pénale est aboli en 1911.
En concurrence avec la France, le colonialisme espagnol s'installe au Maghreb et acquiert des îles et des étendues de territoire le long de la côte atlantique. Les Canaries sont un archipel de 7 îles dans l'océan Atlantique au large du Maroc. Au XVe siècle, l'Espagne prend progressivement le contrôle de toutes les îles. L'archipel des Canaries appartient à l'ensemble géographique appelé la Macaronésie. Cet espace regroupe les archipels des Açores et de Madère sous domination portugaise, celui des Canaries espagnoles et l'archipel du Cap-Vert. Le royaume espagnol se confronte directement au royaume marocain à qui il conteste sa souveraineté sur plusieurs régions. Cette implantation espagnole au Maghreb favorise le développement de Ceuta. De nouveaux ports et de nombreuses infrastructures sont construits. En ce début du XXIe siècle, Ceuta est une ville de plus de 85 000 hominines. Modernisation oblige, le bagne est devenu prison. La population de la ville est un mélange d'hominines hispanophones originaires de la péninsule ibérique et adeptes de la mythologie des chrétiens et d'hominines maghrébins. Les premiers représentent environ 55% de la population de la ville. La langue est un marqueur social. Le castillan est la langue du pouvoir et du commerce, l'arabe celle de la main-d'œuvre. En pratique, les hispanophones parlent pour la plupart le mélitano, une variante locale du castillan andalou, teintée de catalanisme, et seuls quelques petits groupes de moïsiens utilisent une variante du judéo espagnol, la jiquicia, héritage de leurs ancêtres expulsés de la péninsule ibérique au XVe et XVIe siècle. Contrairement au ladino, le judéo-espagnol parlé en Méditerranée orientale, la Aquetia, n'a pas développé de littérature conséquente et est plutôt cantonnée à des usages oraux et quotidiens. Elle a influencé la pratique du Yanito, l'hispano-anglais de Gibraltar. L'arabe de Ceuta, appelé Daria, se différencie des autres parlés de la région par les influences phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales du castillan. Essentiellement oral et non reconnu, il est la langue pratiquée par la majorité des 45% de la population de Ceuta, essentiellement adepte de la mythologie des Mahométiens.
La prospérité de Ceuta tient au fait que l'essentiel de son activité soit dédié au commerce. Elle est un point d'entrée de nombreux produits venant d'Espagne et dont le commerce avec le Maroc est une source importante de revenus. Les marchandises sont vendues légalement ou alimentent le petit commerce marocain de la débrouille. Elle permet aussi un accès à l'Europe pour les marchandises et les hominines. Depuis 2001, les autorités de Ceuta ont érigé une barrière de 8 km de long de la frontière avec le Maroc, faite de plusieurs rangées de grillages de 6 mètres de hauteur, surplombées de barbelés. Un système électronique de surveillance s'ajoute aux patrouilles de garde espagnoles. Ce no man's land, hautement sécurisé, est destiné à dissuader les hominines qui veulent se rendre illégalement en Europe. Tous les ans, des centaines se font blesser ou tuer en tentant de passer cette frontière. Bon courage à celles qui ont réussi.
Melilla.
Après des siècles sous domination romaine, l'ancienne place forte phénicienne de Mélia échoit au royaume maghrébin mahométien qui se succède entre le Xe et le XIVe siècle. En 1497, Mélia tombe sous la domination du royaume d'Espagne et marque le début de l'expansion espagnole et de son implantation dans différentes places fortes le long des côtes maghrébines. Pendant 5 siècles de domination espagnole, Mélia s'est développée, non pas grâce au commerce, mais en basant son économie sur la pêche, le fret et l'exploitation des mines des régions voisines. Le traité de Huadras, signé en 1860 après la guerre entre les royaumes marocains et espagnols, avalise la souveraineté de ce dernier et trace de nouvelles frontières pour la ville qui s'étend un peu plus. La superficie de Mélia est dorénavant de 13,41 km². Cet accord fixe la souveraineté de l'Espagne sur Ceuta et Melilla, ainsi que sur le rocher Vélez de la Gomera et les îles Alhucemas. Melilla obtient le statut de port franc, c'est-à-dire que les taxes et les réglementations ne sont pas identiques à celles appliquées dans le reste du pays. Une importante garnison militaire est encasernée en permanence, chargée de protéger les frontières de la ville contre les revendications marocaines. Comme pour Ceuta, l'implantation de colonies espagnoles sur le sol maghrébin profite à l'expansion économique de Mélia, qui devient une ville régionale de premier ordre. L'indépendance en 1956 du royaume du Maroc trace une frontière qui perturbe considérablement la vie économique de Mélia, qui se retrouve coupée des mines de l'arrière-pays. Elle se restructure grâce à ses avantages fiscaux qui attirent les investisseurs et le développement d'une économie de services tournée vers les villes marocaines. De nos jours, Mélia est une ville de plus de 85 000 hominines. La moitié est hispanophone et l'autre berbérophone. L'une est très majoritairement christienne, l'autre mahométienne. Les pratiques linguistiques des hispanophones sont celles de Ceuta et son mélitano, catalo-andalou. Et pour les berbérophones, les mêmes que celles des hominines du Rif voisin. Pour des raisons démographiques liées à leur situation économique et sociale, les populations d'hominines maghrébins ont augmenté plus rapidement, passant de quelques pourcents au début du XXe siècle à la moitié, un peu plus d'un siècle après. Les inégalités sociales se calquent souvent sur ces différences linguistiques. Comme à Ceuta, il existe une petite communauté moïsienne composée d'hominines descendants des expulsés de la péninsule ibérique du XVe siècle ou de moïsiens maghrébins. Le discours officiel plaide le vivre ensemble. Selon Pierre Desproges, spécialiste en acidité postillonnaire, les hominines de Ceuta et Mélia se disent fiers d'habiter un pays où les juifs courent toujours. En 2009, financé par l'Union européenne, Mélia installe une frontière faite de 12 km d'un double grillage de 6 mètres, de barbelés et de miradors le long de sa frontière marocaine. Des caméras et des détecteurs de mouvement sont utilisés en plus des patrouilles. Seuls 3 endroits sont aménagés pour être des points de passage contrôlés par des gardes-frontières. Ce dispositif ultra sécurisé a démotivé nombre d'hominines cherchant à passer la frontière par des voies non officielles. Beaucoup ont préféré la route de l'Europe par la mer, à travers le détroit de Gibraltar ou par les îles Canaries, quitte à peut-être y perdre la vie.
Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses.
Comme quoi ?
J'ai réalisé que certaines choses étaient pas de ma faute. Enfin, c'est pas que je sois irréprochable, mais... Je crois que je me sens coupable d'avoir laissé les choses se finir comme ça. Tu vois, j'aurais vraiment pu mieux faire.
Du coup, c'est quoi le rapport ?
Tout le monde meurt, de toutes les façons possibles. Et pourtant, c'est dingue, la vie continue. Et c'est ça le plus difficile, je crois bien. On peut pas empêcher les choses d'arriver. Donc, à quoi ça sert de vivre dans l'angoisse ? Parce que ça change absolument rien. Quoi qu'il arrive, il faut s'accrocher, la vie doit continuer.
Pseudo-postillon.
Dans le nord de la péninsule ibérique, l'Espagne a une frontière terrestre commune avec la France. Elle suit la chaîne montagneuse des Pyrénées, passant parfois d'un versant à l'autre. Les deux pays sont parvenus à fixer une entente entre eux en ce qui concerne certains territoires convoités ou revendiqués. D'ouest en est, l'île des Faisans, le pays Quinte, Andorre et Llivia bénéficient de statuts spécifiques hérités de leur histoire propre, mais ce ne sont pas des présides, juste de pseudo-postillons. Les accords signés entre les deux pays concernant ces statuts ne souffrent d'aucune contestation de part et d'autre. La frontière atlantique entre l'Espagne et la France, son point le plus occidental, se situe au niveau de l'embouchure de la Bidassoa, un fleuve prenant sa source dans les Pyrénées. D'une superficie d'environ 200 mètres sur 40, soit un peu plus d'un stade de foot, l'île des Faisans est faite de dépôts alluvionnaires de l'embouchure retenue par l'installation de pierres tout autour. À partir du XVe siècle, elle est utilisée par les deux pays pour en faire un lieu de rencontre diplomatique. Puis, dans les trois siècles suivants, elle va être aussi un haut lieu de négociation royale autour de l'échange d'enfants. Quel enfant de 3 ans faut-il marier avec un prince de 5 ans son aîné pour le bienfait des familles ? Quelle princesse de 8 ans va avoir la chance d'être donnée en mariage à un jeune adulte de son âge ? En souvenir de cette glorieuse période de leur histoire, l'Espagne et la France se partagent depuis 1856 la souveraineté de l'île qui est un condominium. Du 1er août au 31 janvier pour la France, du 1er février au 31 juillet pour l'Espagne. Du 1er août au 31 janvier pour la France, du 1er février au 31 juillet pour l'Espagne. Le titre de vice-roi est porté par un responsable militaire local de la marine de chaque pays par alternance de 6 mois.
Le pays Quint est à cheval sur la frontière entre le département français des Pyrénées-Atlantiques et la province espagnole de Navarre. Il est le prolongement méridional de la vallée des Aldules, une vaste zone de bois et de pâturage. Il tire historiquement son nom du droit du Quint, qui est un impôt royal sur les ventes de propriétés par des nobles qui correspond à un cinquième, Quint, du prix de vente et renvoie à un droit de glanage pour les pourceaux. Le pays Quint est traditionnellement une zone de libre pâturage en vertu d'accords dits de lit et passerie entre les vallées basques d'Hérault et de Baïgorry. La controverse entre la France et l'Espagne dure plusieurs siècles, ponctuée de décisions judiciaires et de décrets pour finalement trouver un arrangement en 1856. Le pays Quint est coupé en deux. Le nord revient à la France avec les villages d'Aldules, Urepel et Banca, sur lequel elle exerce sa pleine souveraineté. Les 25 km² du sud du pays Quint est placé sous souveraineté espagnole, mais son administration reste française. Ce territoire est subdivisé en deux parties. Celle du nord est librement accessible pour la France et la partie sud est soumise au versement d'une rente à l'Espagne pour le droit d'usage. Les rares hominines qui vivent actuellement dans cette région sont soumis à l'impôt foncier en Espagne et payent leur taxe d'habitation en France. La micro-région fait la une de l'actualité en décembre 1973 lorsque le groupe autonomiste basque Iparretarrak revendique sa première action contre une entreprise de Banca qui s'oppose à la création d'un syndicat. Philippe Bidard, l'un des membres d'Iparretarrak, est originaire de la commune voisine de Saint-Étienne de Baïgorry. En mars 1982, le groupe tue 2 CRS dans ce village lors d'une embuscade.
Petits arrangements.
D'une superficie de 430 km², Andorre est coincée dans les hauteurs pyrénéennes entre l'Espagne et la France. Cernée par des sommets de plus de 2000 mètres en direction de la France, Andorre est constituée de 2 vallées qui se rejoignent pour former un Y et verser vers la frontière espagnole. Une quarantaine de villages et petites villes sont répartis sur les 2 vallées. La population actuelle s'élève à environ 75 000 hominines, dont un peu moins de la moitié vivent dans les vallées de Escaldes en Gordanie et Andorre-la-Vieille, la capitale. La langue officielle est le catalan. Son statut de principauté est l'héritage d'un ancien accord de co-régence daté du 8e siècle, entre le petit territoire et ses 2 voisins, qui en sont les coprinces. Il n'y a pas de famille princière andorrande, mais un système parlementaire garanti par les 2 princes symboliques. En 2026, les coprinces sont le président français Emmanuel Macron et l'évêque d'Urgel, Juan Enrique Vives y Sicilia. Seul l'intermédiaire du russe Boris Skossyrev, proclamé roi d'Andorre en juillet 1934 sous le nom de Boris Ier, perturbe ses relations trilatérales apaisées. Un projet de nouvelle constitution défendant la liberté politique, religieuse et d'opinion et un projet économique libéral sont au cœur des aspirations du nouveau roi. Il veut faire d'Andorre un endroit prisé pour son cadre économique qui, du casino aux avantages fiscaux, en ferait un petit Monaco pyrénéen. Boris Kossyrev, né à Vilnius en 1896, quitte la Russie en 1917 et s'installe au Royaume-Uni où il s'engage dans l'armée. Pour les services rendus en tant qu'espion en Sibérie et au Japon, il obtient un passeport d'apatride en 1925 avec lequel il part pour les Pays-Bas puis la France. Il se marie en 1931 avec une jeune Marseillaise issue d'une riche famille. Tous deux sont impliqués dans diverses escroqueries. Fin 1933 ou début 1934, Boris arrive en Andorre et se lance dans la politique locale. Après une première expulsion, il s'installe en Espagne où il publicise auprès de la presse ses projets de réforme sociale et politique pour Andorre. Il retourne discrètement en Andorre et est proclamé Boris Ier par le Parlement andorran le 7 juillet 1934. Il est arrêté le 21 juillet par une patrouille militaire espagnole. Expulsé vers le Portugal, il regagne la France via l'Italie l'année suivante. Expulsé avec sa femme vers le Portugal, il parvient à rejoindre l'Espagne courant 1936. Il traverse le pays, alors en pleine guerre civile, pour retourner en France. Il s'y fait arrêter et interner dans un camp de prisonniers espagnols. Il est libéré en 1942 par des militaires allemands qui, l'année suivante, lui propose de travailler pour l'armée allemande à l'est de l'Europe. Il est capturé en 1945 par des militaires états-uniens, puis, n'étant ni allemand ni affilié au parti hitlériste, il est remis en liberté. En 1948, il est arrêté par les soviétiques qui le condamnent à l'internement dans un goulag sibérien. Libéré en 1956, il s'installe en Allemagne où il meurt en 1989. Après cet intermède de Boris Ier, Andorre est redevenue une paisible principauté, attirant son lot de touristes quotidiens venus profiter des quelques pistes de ski en hiver ou, surtout, des basses taxes sur les produits tels que l'alcool, le tabac, la téléphonie ou l'informatique.
Llibia est une enclave espagnole de 12,83 km² dans le département français des Pyrénées-Orientales. Elle se compose de la ville de Llibia et de deux hameaux, dans lesquels vivent un peu plus de 1500 hominines. Après trois décennies de guerre entre les royaumes d'Espagne et de France, un traité de paix est signé en 1659 sur l'île des Faisans. La France agrandit ses frontières méridionales en annexant une partie du Roussillon et de la Cerdagne. Dans cette dernière, 33 villages doivent passer sous souveraineté française, mais, au prétexte qu'elle a le statut de ville, Llibia est maintenue sous domination espagnole par le traité de Llibia de novembre 1660. À la condition de ne pas entreprendre de travaux de fortification, une route neutre est instaurée sur le tracé du chemin de la ville espagnole de Puigcerda à Llibia. La frontière est confirmée bilatéralement en 1866. Une route de 4 km relie l'enclave à Puigcerda, dont 1,8 km de route neutre qui traverse le territoire français. La frontière terrestre entre le Portugal et l'Espagne ne connaît pas autant de particularités. Seule la souveraineté sur la ville d'Olivense est encore disputée par les deux pays. Est-elle dans l'Estramadour espagnol ou le Haut Alentejo portugais? Elle est de fait en Espagne depuis 1801, mais le Portugal la réclame. Le dernier litige hispano-portugais date de 1864. À la frontière entre le sud de la Galice espagnole et le nord du Portugal, existe depuis le XIIe siècle un minuscule territoire de 27 km² bénéficiant d'un statut d'autonomie, le Couto Mixto. Parmi les avantages directs, les hominines sont dispensés de services militaires, paient moins d'impôts et sont autorisés à cultiver le tabac. Ils ne sont pas les sujets d'aucun des royaumes voisins et le droit d'asile est préservé. Le Couto Mixto est composé de trois villages, Rubias, Meos et Santiago, élisant leur gouvernement et ne dépendant d'aucun des deux royaumes ibériques. Un chemin neutre existe entre Rubias et le village portugais de Tourem. En 1864, l'Espagne s'approprie le couteau mixto. Elle somme les hominines du micro-État à choisir entre l'une des deux nationalités. En échange de ces trois villages de couteau mixto, l'Espagne accepte la souveraineté du Portugal sur trois autres villages de la région. Le différend est réglé. En 2020, Rubias, Meos et Santiago totalisent 131 habitants, mâles et femelles.
Protivophilie postillonnaire.
Pour la protivophilie, les positions espagnoles et marocaines sont tout aussi absurdes. Si cela n'avait pas été à l'origine d'innombrables guerres et d'une immensité de morts, les frontières entre les hominines pourraient être un sujet de franche rigolade ou d'anecdotes débiles dans une soirée arrosée, tellement cela est ridicule. Les exemples n'en manquent pas, et les présides n'en sont qu'un parmi d'autres. Les justifications aux tracés de frontières et aux souverainetés territoriales sont les plus souvent des échanges d'argumentaires fallacieux. Dans cet humour propre à la politique internationale, l'Espagne affirme que sa souveraineté sur les présides est un droit qu'elle hérite d'accords passés avec les autorités, soit après des guerres ou des négociations, pour obtenir l'ensemble des présides actuels, alors qu'elle refuse que Gibraltar soit, pour les mêmes raisons, britannique. Le Maroc revendique des zones qui n'ont historiquement jamais appartenu à un quelconque royaume marocain, qui pour autant se targue d'un droit historique sur les présides, de la même manière qu'il le fait pour le Sahara occidental, l'ex-colonie espagnole du Sahara. Inutile d'y chercher une logique sans y perdre la raison, ou du moins du temps, et au pire, la vie. Les mythologies nationalistes sont ainsi faites d'irrationnels et d'illusions, tant et si bien que les hominines qui les défendent soient prêts à tuer ou se faire tuer au nom de ces chimères. Mourir pour l'îlot Persil, résume la profondeur de l'héroïsme national. Nulle trace de F. Merdianov dans l'histoire récente des présides. Les recherches protivophiles n'ont pas permis de trouver une pétition, même si cela est une très bonne façon d'arriver à rien, signée de son nom et réclamant que l'îlot Persil soit déclaré définitivement Terra Nullius. Aucun registre ne mentionne son passage sur l'îlot. Dans le seul texte consacré à sa vie et son œuvre, ses biographes ont déjà, dès 2017, récusé les hypothèses sur d'éventuels voyages dans d'autres Terra Nullius. Dans l'univers protivophile, il est néanmoins admis que la lutte pour l'extension des Terra Nullius au monde entier donne du sens à rien et s'oppose à tout, et que par conséquent, il est probable que F. Merdianov ait pu en faire sa cause.
Vous avez, dites-vous, un arbre de grande taille et déploré qu'il ne serve à rien. Pourquoi ne le plantez-vous pas au pays du néant, dans une lande déserte ou une friche ? Vous pourriez rôder oisivement autour ou dormir sous ses branches. Aucune scie, aucune hache ne sont là pour le menacer d'une femme prématurée, et nul ne saurait lui porter dommage. Que quelque chose ne serve à rien, faut-il vraiment s'en préoccuper ? Dans l'œuvre complète de Chuang Tzu, citée à l'entrée de L'Inutile dans F. Merdjanov, Analecte de rien.
Parmi les plus optimistes des protivophiles, qui voit le monde comme une prison à ciel ouvert dont les différentes ailes sont des frontières, le contenu des Analectes de rien n'est pas fait simplement de miettes, mais aussi de postillons. Cette approche carcérale rejette le sens commun de ce terme, pour lui préférer celui, qualifié d'argotique par les dictionnaires, de boulette de mie de pain contenant un message utilisé à l'intérieur d'une prison ou envoyé de l'extérieur. Précision sur la référence chronologique JC utilisée dans ce texte. Jésus, aka Christ, est le nom d'une célèbre affaire de fake news avec des retombées mondiales, dans laquelle deux évangélistes, Matthieu et Marc, sont accusés de propager des inepties concernant la foi en une divinité qui procure des dons surnaturels aux hominines. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. Marc 11, 23.
Help with everything. Why these people want to do so much good?
Tout sur rien. Le quatrième mardi du mois
à 17h, le vendredi à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Ganges-Vigan.